vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin.
Épisode numéro 35. Vous avez des amis ? On a le costume. Chers amis, bonjour. Alors si je vous dis son nom, vous me direz, mais bien sûr, je sais qui c'est. Et vous pourrez répéter à vos amis que vous l'avez bien connu. Mais si je vous montre quelques photos de lui, alors là, vous serez bien étonnés. Ah, c'est lui, là ? C'est un des grands patrons qui vit à Strasbourg. Super grosse boîte. Il a fait Sciences Po, la boulangerie rue Gaillère, Elena. On l'imagine en voiture avec chauffeur, pas pour frimer, mais pour pouvoir avoir le temps de signer un tas de papiers bien présentés dans des classeurs avec du papier buvard rose et des petits trous pour voir la feuille suivante. Bon, et quand il descend de la voiture, il y a une secrétaire qui ferme le tout cérémonieusement et porte cela, c'est fou, précautionneusement. Alors, cette assistante, elle est aussi super diplômée et canon. Et en petit tailleur noir, très sobre, un peu Chanel, discret, mais quand même la classe. Et notre patron tout puissant, il est en jeans, un peu râpé, comme un cliché. Il a une chemise bleu ciel qui sort de sous un pull polaire style promo, les deux pour 19,99€ sur Internet. Alors la chemise, elle est faite sur mesure, mais cela ne se voit pas. Et le pull... Il a une tirette, une poche avec une fermeture éclair où il peut ranger son Montblanc. Ça aussi, on ne le voit pas parce qu'il signait ses contrats hyper importants avec un stylo Bic à 2 balles. Alors, si l'habit fait souvent le moine ou le curé ou le pasteur ou l'imam ou le rabbin, c'est une expression que l'on doit à Plutarque, « barba non fecit philosophum », la traduction est exacte étant « la barbe ne fait pas le philosophe », ce qui laisse entendre qu'il faut se méfier des barbus, c'est la barbe qui cache l'imposture. On peut avoir une fascination pour les imposteurs, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui dans cette chronique. Mais quand même, dans la vie quotidienne, si vous croisez des barbus, observez-les. Ils ont, c'est vrai, assez souvent un air de ne pas être bien tranquillos dans leur peau, genre Père Noël qui se veut sympa pour vous embobiner. Bref, donc, l'habit fait... ou ne fait pas le moine, et donc notre grand patron en jeans pourra avoir pu la sortie, alors qu'il pourrait être en costume Armani. Soit il veut tromper son monde, soit simplement il veut être à l'aise. Alors pour faire le savant expert en costume, et je ne suis pas un ancien Premier ministre, l'expression du moine en blue jeans pourrait avoir pour origine le pape Grégoire IX, qui voulait gronder les moines. On ne dit pas « engueuler » à la radio, il les enguirlandait parce qu'ils se comportaient comme des cochons, ne pensaient qu'à la chose, on ne dit pas « baiser » à la radio, ils étaient cupides et violents, des comportements qui n'étaient pas comme on imaginait celui qui devait être celui d'un moine. Alors, il y a une autre origine assez rigolote à l'expression « l'habit ne fait pas le moine » que l'on trouve dans les armoiries du prince de Monaco. On y voit 2 moines portant des épées. Alors, c'était en 1297. L'ancêtre qui s'est nommé François Grimaldi. Grimaldi, déjà. Il avait voulu s'emparer du rocher et il avait déguisé ses soldats en moines franciscains, demandant l'asile pour la nuit. Et hop, une fois dans la place, ils ont refait le coup du cheval de Troie et les anciens proprios du château ont répété « l'habit ne fait pas le moine » avant d'être massacré. Donc, celui que vous avez bien connu aujourd'hui, on devrait se l'imaginer en costume, en costard-cravate. On se souvient de ce Premier ministre qui se baladait dans des costumes à 10 000 euros et qui avait dit « mais c'est un cadeau d'un ami ». Au début, ça avait fait rigoler qu'il prenne ainsi les gens pour des imbéciles et ensuite on a appris qu'il était tellement gripsou ou corrompu que dans sa famille, même son chien toucher un salaire comme assistant parlementaire, chien, policier. Et hop, une escalope pour ta peine, et hop again, À la fin, le roi fut nu, puisqu'il voulait être couronné président de la République, et qu'au lieu de voter pour lui, les citoyens, sous les quolibets, l'ont enfui. Enfui sous les quolibets. Je peux repenser à Hop, Penelope. Bon, c'est une astuce. Eh bien, chers auditeurs, vous êtes peut-être tout nu dans votre salle de bain, en train d'écouter votre émission préférée, vous l'avez bien connue. Sachez que vous pouvez vous rhabiller, et pour pas cher, car on trouve des costumes pour 30 euros. Oui, 30 euros, sacrée bonne affaire. J'ai vu cela dans une boutique à Barbès, à Paris, prix d'appel. J'en ai essayé un. Alors, c'est pas le grand luxe comme tissu, c'est une sorte de tergal, toile cirée très fine, mais quand même, c'est mieux que du Canada Dry. Ça ressemble vraiment à un costume, et qu'il vaut mieux prendre une taille plus grande parce que les coutures semblent avoir été faites par un robot et risquent de lâcher. Mais et si vous avez des amis, comme notre homme politique, et que vous voulez leur faire un cadeau, c'est vraiment possible. Vous avez un costume pour moitié prix d'un volume de la Pléiade, ou pour le prix d'un bouquet de fleurs, ou même le prix d'une tarte au fromage en entier, 8 parts. Alors je vous rappelle que la meilleure, c'est celle de la rue Gaillère à Strasbourg. Bon, quel est le prix normal d'un costume? Alors, pas sur mesure, mais en prêt-à-porter. Le costume que l'on met pour aller au bureau, qui doit d'ailleurs être au même prix que celui pour aller au mariage de votre frangine, pour être chic dans la famille, et que vous mettrez qu'une seule fois par an parce que ben, vous n'en avez pas vraiment l'occasion, ou alors peut-être si, oui, aux enterrements. Et d'ailleurs, au bout de 2 ou 3 ans, ben, le costume, c'est comme s'il avait rétréci. En fait, c'est vous qui avez pris quelques kilos. Et la bedaine va empêcher de fermer le bouton du milieu. Bon, au pif, disons 150 à 200 euros. Et si vous l'achetez dans une boutique avec un vrai vendeur, il vous baratinera sur la qualité et vous mettrez 300 euros. L'astuce, c'est que vous pourrez toujours mettre la veste toute seule sur un jean ou le pantalon toute seule, mais enfin pas vraiment, parce que c'est pas le genre pour faire du vélo avenue des Vosges par exemple. Vous risquez que l'ourlet frotte contre la chaîne. Alors moi, je mets des pinces à vélo, même sur un jean. Mon papa, il faisait cela aussi sur ses pantalons golf dans les années 1950. Hein, c'était la mode. Alors, les jeunes, si vous ne savez pas ce que c'est un pantalon golf, regardez dans un album Tintin et Milou. Eh bien, Tintin, il a des pantalons golf. Donc, un pantalon à revers, c'est pas pratique à bécane. On peut aussi mettre le bas du pantalon dans le haut des chaussettes pour bien serrer, mais c'est vraiment pas élégant. Ou alors, faire un triple revers, on remonte le bas du pantalon à la main avant d'enfourcher sa monture. Les tailleurs ont un mot pour cela. Cela s'appelle le roulotage. Rouler le bas du pantalon plusieurs fois sur lui-même. Alors, vous êtes donc dans votre costume à 30 balles, avenue des Vosges, et même s'il pleut, le costard ne va pas rétrécir puisque c'est du polyester. Il aura juste l'air d'être un chiffon, mais dans le chiffon, tout est bon, donc vive les costards. Alors, je vais faire une digression, car je vois que vous avez dressé l'oreille. Le rouletage, technique pour faire un ourlet raffiné en bas de son pantalon, cela veut aussi dire voler des objets dans une voiture en stationnement. Un vol à la roulotte. Alors imaginez que vous avez laissé le costume à 10 000 euros de votre ami ministre sur le siège arrière de la voiture, dans sa housse du pressing, et que vous êtes victime d'un roulotage. Est-ce que vous allez mettre dans le quartier des affiches « Perdu costume, grande valeur sentimentale, vu la dernière fois en direction de la place Brandt, forte récompense ». Alors, j'aime bien lire les affiches sur les poteaux électriques ou sur les arbres « Chat perdu » avec le nom de la bestiole, une photo du chat avec le bébé, et puis le numéro de la puce dans l'oreille. Il a 4 pattes, il est noir et blanc, élève la queue au bruit des croquettes dans le paquet. Vous savez, cloc, 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 le bruit des croquettes dans le paquet. Et je regarde au carrefour si je ne le vois pas écrasé. Ah ben je sais, je suis horrible, mais au bout de 3 ou 4 heures, surtout s'il y a des camions qui passent, il n'y a plus que l'épaisseur d'une crêpe. Bon, pauvre bête. Donc, votre costume a disparu et vous n'êtes pas tout nu. Parce que même si c'est votre uniforme pour aller au boulot, des costards, vous en avez plein un placard. Imaginons que vous êtes un patron en fin de carrière. Vous achetez un costume une fois par an. Eh bien, vous en avez bien une trentaine à la maison, que vous ne jetez pas tant que vous avez de la place, même si ce sont toujours les trois mêmes que vous portez. Alors, c'est difficile à fourguer un costume, et si vous avez des scrupules et un soupçon de mauvaise conscience et une once de bonne générosité, vous allez le plier bien dans le sens des coutures et le mettre bien enveloppé dans une benne à vêtements, bien devant la Croix-Rouge rue Schweighauser. Mais il y a peu de chances que votre cher costard aille intéresser un pauvre R, et même s'il est récupéré par des margoulins qui vont les expédier sur les marchés de Bobo Dioulasso, c'est au sud de Ouagadougou, alors j'y étais, je peux en parler, c'est pas certain que votre costume fasse la joie de quelqu'un de votre taille par 33 degrés à l'ombre. Alors, en cette période d'obsession culpabilisante de recyclage alibi pour sauver la planète et pour voter pour les sauveteurs qui ont trouvé le truc, recycler son costard est un vrai sujet pour les critères 3 ou 4 ou 5, interdit de parcourir les zones piétonnes et arborées en costume de plus de 10 ans d'âge. D'ailleurs, les écolos vont mettre en place des puces électroniques cousues dans les cols des vestes de costume pour calculer le nombre de jours où ils sont portés, avec bien sûr une dérogation si c'est avec une écharpe verte, hein, pour faire croire qu'on a des convictions. Bon, je ne vais pas tailler un costume à mes amis, ni d'ailleurs, ce ne sont pas des champions de l'élégance, mais ça n'a aucune importance, même c'est pour la rime, en transe. Sous la pluie, on danse, singing in the rain, un peu de bienveillance, de la clairvoyance, alors un pieu avec de la bienveillance, ça c'est autre chose, et beaucoup d'influence. Méfiez-vous des déviances, des croyances, ni Dieu ni maître, roi de l'insignifiance, pas de patience pour les champions des omnisciences, toutes mes condoléances pour votre costume sans surveillance. Le costard, deux ou trois pièces, cravate, est devenu à peu près partout dans le monde un signe de reconnaissance qui n'est pas celui du pouvoir, mais de l'acceptation de certaines conventions. Alors, les femmes aussi portent le costume. Et cela fait longtemps que les femmes en pantalon ne sont plus observées comme ne portant pas de jupe ou de robe. Il n'y a pas si longtemps, dans certaines assemblées, les femmes n'avaient pas le droit de se présenter en pantalon. Alors, différenciation qui pouvait être interprétée comme une discrimination. Montrez vos mollets, mesdames, ou pire, cachez ces genoux que l'on ne saurait voir en portant des jupes longues jusqu'aux chaussures pour que les gosses puissent s'accrocher à votre jupe, la femme à sa place, les trois cas des Allemands, les enfants, la cuisine, la prière. Et dites merci à votre mari en costard. Vive les femmes, comme disait Reiser. Vive les femmes en costard. Alors, chez les talibans à Kaboul ou dans la série Unorthodox à New York, les femmes ne portent pas de costard. Hein. Pour elles, le monde entier est un cactus. L'obscurantisme et les hommes qui veulent leur bien, faites des enfants, restez en jupe, on s'occupe du reste, en veston, pantalon et gilet, plus cravate, si affinité. Il y a aussi le smoking. Alors, pas seulement pour aller fumer une cigarette devant la porte du bureau, puisque c'est no smoking à l'intérieur, mais le smoking pour grimper les marches au festival de Cannes ou pour se déguiser à carnaval. Alors, c'est l'occasion de parler des sans-culottes. Ce sont des révolutionnaires, non pas de la mode, mais des révolutionnaires de la royauté. Ils ne sont pas à poil, les sans-culottes. Ils ont des pantalons qui tombent sur leurs chaussures et non pas comme les nobles et les aristocrates, ou plutôt les bourgeois, qui tombaient sur leurs pantalons et ils portaient des culottes courtes. Et ça allait jusqu'au haut des bas. C'était un peu plus haut que le mollet. Alors, être sans culotte, c'était un signe de protestation. Alors, nous sommes en 1789, un peu comme les gilets jaunes en 2020. C'était une distinction par le vêtement. Le terme sans-culotte existait déjà avant le XVIIIe siècle. Les sans-culottes, c'était des petits commerçants, des artisans, des ouvriers et des paysans. Et les gilets jaunes existaient déjà avant l'occupation des ronds-points. C'était les gilets de secours, hein, pour être vus la nuit, avec une bande réfléchissante, pour les petits commerçants, les artisans, les ouvriers, les paysans, en panne de voiture ou en macédoine sur les ronds-points. Les sans-culottes auraient adorer se moquer des costumes à 10 000 euros, puisqu'il prônait l'égalité entre tous les citoyens, avec le droit de vote pour tous, même pour ceux qui avaient trop de faibles revenus. Ils réclamaient, habillés de leurs costumes à 30 balles et sans cravate, la redistribution des richesses, le droit à la subsistance et une taxe fixe bloquée sur les denrées de première nécessité. Bon, ça, c'était après la Révolution. Et être sans culotte, c'était être anti. Anti-monarchiste, anti-clérical, avec une vision idéalisée de la Grèce antique. Je ne sais pas si aujourd'hui, ceux qui fustigent les énarques en costard ont une passion pour la vie, il y a 25 ans, à Sparte, à Athènes et Thèbes, mais un costard, d'habitude, ce n'est pas ce que l'on met dans sa valise pour partir en vacances, par exemple dans le Péloponnèse. Alors, partez en vacances en restant à la maison, vous avez certainement une édition de l'Iliade quelque part sur une étagère. Mettez un vieux t-shirt détendu et décoloré, un pantalon de jogging trop lâche et plongez dans la lecture digne d'un académicien. Alors, par exemple, Barbara Cassin ou Jacqueline de Romilly, qui est un petit peu une écrivain un peu antérieure, deux noms que j'ai effectivement dans ma bibliothèque avec vraiment un grand plaisir. Alors, je me suis dit, voyons, pour faire un peu prétentieux, d'autres noms d'hellénistes français célèbres sur Internet. Donc, Jacqueline de Romilly et Barbara Cassin. Alors, je cherche dans Wikipédia, qui propose une longue liste par ordre alphabétique. 246 pages d'hellénistes français, de Jacques Ader, 1817-1886, né à Bergerac, jusqu'à Frédéric Werther. Elle est née en 1975. Elle a fait l'école de la rue d'Ulm et une agrégue de lettres classiques à l'Université de Paris-Est. Et cela fait des centaines et des centaines de spécialistes de la Grèce antique. Et moi qui me réjouis d'avoir lu à 18 ans le livre de Edith Hamilton, alors rien à voir avec le photographe David Hamilton, hein. Cela s'appelle La mythologie, c'est 500 pages avec ses dieux, ses héros et ses légendes. La mythologie de Edith Hamilton. Alors il y a eu d'autres livres sur la mythologie. On dit parfois que le livre de Hamilton est dépassé, mais c'est formidable. Elle raconte, comme dans un roman, l'histoire de tous les dieux grecs, et c'est formidable. Alors, quel était le costume de ces dieux grecs, puisque c'est le costard, le sujet de cet épisode de « Vous l'avez bien connu ». On a commencé par évoquer le patron d'une super grosse boîte qui se balade en t-shirt et en jean délavé. Les ministres dans des costumes à 10 000 euros et les fonctionnaires dans ceux à 200 euros. Les dieux, quand ils n'étaient pas tout nus, comme on les voit sur les statues de marbre, les dieux portaient le chiton, une sorte de chemise longue. Il n'y avait pas vraiment de boutonnage, c'était un grand drap plié dans la hauteur et cousu sur le côté. Le chiton restait ouvert, et pour que cela tienne sur les épaules, il était attaché par des fibules. Au-dessus du chiton, on pouvait porter un himation, qui était comme une sorte de châle sans attache sur les épaules comme un manteau. Chiton ou himaton, ça rime presque avec fillon pour les costumes. Alors, les esclaves, les soldats et les marins portaient à peu près la même chose, mais en plus court, pour être à l'aise en travaillant, une tunique qui se nommait l'exomis. Mais ce qui est vraiment très très intéressant, c'est que chiton, himaton ou exomis étaient portés aussi bien par les hommes que par les femmes. Voilà, alors c'est assez formidable d'imaginer le féminisme libéré par les vêtements il y a 2500 ans. Aujourd'hui, beaucoup de femmes portent le pantalon et peu d'hommes une jupe. Mais chez les Grecs, la différence ou la discrimination ne passait pas forcément par les fringues. Enfin, c'est un peu un point de vue de l'esprit, parce que si on cherchait dans la littérature, il y avait aussi le chlamyde, un manteau court, plutôt pour les hommes, et le péplos, une tunique, plutôt pour les femmes, et la ténia, c'était un bandeau que les hommes portaient au front et les femmes pour soutenir les seins, et le pallium, qu'on portait à même la peau, et qui était le manteau des philosophes, parce qu'il était plus pratique que la toge, et qui est devenu le vêtement des premiers disciples du Christ et des premiers chrétiens. Alors dis-moi quel est ton costume et je te dirai qui tu es. On a vu que c'est pas tout à fait juste aujourd'hui. Alors j'idéaliserai en disant « dis-moi ce que tu lis et on saura qui tu es ». Ce qui permettrait d'épater ses amis en disant « oh, j'ai terminé la recherche du temps perdu, j'ai tellement aimé que je recommence ». Eh bien, si c'est vrai que vous êtes devenu un grand lecteur de Proust, je me permets de vous signaler une édition absolument formidable. C'est dans la collection Bouquins, et cela a été publié uniquement l'année dernière. Cela s'appelle « Le temps perdu ou les intermittences du cœur » Jean-Marc Carente, qui a établi le manuscrit refusé par Proust. Il l'avait proposé à différents éditeurs en 1912, et Proust l'avait édité à compte d'auteur. C'est beaucoup plus intéressant à lire qu'un brouillon. C'est formidable parce que, bon, Balbec s'appelle Briquebec et Charlus s'appelle Fleurus. Et il n'y a pas de jeune fille en fleurs, enfin pas encore. On y raconte toutes les péripéties du refus du manuscrit, la refonte du texte par Proust. Bref, c'est comme on le dit sur la quatrième de couverture, un véritable cours de création littéraire. Avec cela, vous êtes habillé pour l'hiver. Cela me donne l'idée de me souvenir des costumes que portaient les écrivains quand ils passaient à la télévision, dans Apostrophe par exemple. Ils étaient souvent habillés en dimanche, comme une sorte de convention pour paraître sérieux et surtout pour signifier dans un costard passe-partout que c'était l'œuvre qui était importante, avec ces fameux gros plans sur la couverture des bouquins. Comment on s'habille à la télé? Il y a 40 ans, alors, quand j'étais journaliste à FR3, on portait toujours une cravate pour les informations. Et pour changer, le dimanche, je piquais dans le stock de mon père qui était prof. Et alors ma mère me disait « Ah, t'as encore mis une cravate de papa ». Mais elle était incapable de se souvenir de quoi j'avais parlé. Alors parfois, on faisait des blagues à l'antenne. Pendant la diffusion d'un reportage qui dure, disons, 2 minutes, si on était à 2 sur le plateau, on s'échangeait nos cravates. Et cela ne manquait pas. Il y avait toujours un spectateur pour demander ce qui s'était passé. Bon, à l'époque, les gens écrivaient. Hein. On était contents de recevoir des lettres. Alors, ce que les spectateurs ne voyaient pas, c'est que souvent, on n'avait que la veste du costume et qu'on était en short en dessous. Bon, encore une anecdote pour cet épisode consacré aux beaux costumes. Quand j'avais 15 ans et mon petit frère 14 ans, on a fait notre communion solennelle, alors une cérémonie héritée des traumatismes de la guerre et pleine de bon sens pour la paix dans la famille, parce que, bon, il y en avait d'un côté en Allemagne et de l'autre, enfin bref. Pour la petite histoire, moi, j'ai refusé de la faire, révolte d'adolescents et contestation anti-famille et anti-curé, mais la fête, ce n'était pas la religion. Quand la réunion de toute la famille avec les parrains et les marraines, et comme on avait le même âge, et pour faire des économies, eh ben, les parents ont décidé de faire une seule invitation, plus d'une trentaine de personnes, avec un gueuleton, une pièce montée au dessert, et au cadeau, une montre pour les deux gamins. Voilà, et c'était le parrain qui offrait une montre. Et bien sûr, il fallait être dans un beau costume. Alors, on habitait à Agneau, et on est allé chez Tilvy, place d'Armes. Les auditeurs se souviennent certainement d'elle, Madame Tillman. Alors, le tissu était en tergale gris brillant. Et quand Madame Tillman a pris les mesures pour le pantalon, maman a dit « Non, mais laissez les ourlets. On ne va pas couper. Ils vont encore grandir. » Est-ce que vous vous souvenez de votre premier costume ? Le plus beau des costumes, ce sont ceux de nos souvenirs. C'était l'épisode numéro 35 de « Vous l'avez bien connu ». Vous avez des amis, on a le costume. « Vous l'avez bien connu », une émission tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi à la technique Lucas Bringout et mon nom, avec le costume 3 pièces, nœud papillon, c'est Ambroise Perrin.